Vivre ou survivre. La langue française est curieuse parce qu'on se dit que si vivre c'est bien, survivre ça doit être encore mieux. On se dit que si monter ça veut dire accéder à quelque chose de plus haut, surmonter ça doit être encore mieux. Parce que c'est surmonter. Mais souvent, en fait, le mot de survivre ou de surmonter, ça fait penser aussi au mot de surnager. Si on nage, si on sait nager, on pense que surnager, ça veut peut-être dire être champion olympique. Non, surnager, on sait tout ce que ça veut dire. Arriver à peine à tenir la bouche hors de l'eau pour ne pas périr. On a chanté ce chant, que Dieu est avec nous, au milieu du feu, au milieu de l'orage ou des inondations, au milieu des eaux, mais il nous permet de survivre. La question, c'est survivre, c'est essentiel pour ne pas périr. Mais la grande question de l'homme, c'est qu'est-ce que vivre? Pourquoi vivre? À quoi bon vivre? Quel est le but de vivre? Quel est le but de notre vie? La Bible a des réponses à cette question. Il y a un chant que on n'a pas chanté depuis un petit moment, mais qui est un de mes chants favoris, et ce chant dit « Je louerai le Seigneur tant que je vivrai ». Autrement dit, ma vie, ça sera de louer Dieu. On a loué Dieu par les chants. Mais louer, c'est plus que simplement chanter des chants en pensant à Dieu. C'est une très bonne chose. Mais c'est quelque chose de plus important. La louange, ça vient d'un mot qui s'appliquait dans la Grèce antique, et c'est la même idée dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament. C'est l'image d'un chien qui vient vers son maître pour lui lécher les mains. Donc c'est une attitude d'humilité, c'est une attitude d'amour. En Perse, le même mot était utilisé pour s'incliner par respect jusqu'à toucher avec son front le sol. Donc il y a cette attitude d'amour, de reconnaissance, d'humiliation. Et si vous êtes propriétaire d'un chien, si vous êtes le maître d'un chien, propriétaire, ça fait un peu transaction commerciale, parce que ça va au-delà d'acheter une bête. Il y a une relation qui s'établit, et si le chien vous aime, il va vous faire la fête quand vous rentrez, qu'il ne vous a pas vu depuis un moment. Il va sauter, il va aboyer, il va japper, il va venir vous lécher. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les chiens, des fois vous êtes un peu embarrassé par un chien qui vous saute dessus, qui met les pattes et qui vous lèche. Mais l'idée d'adoration est bien représentée par ça. C'est de la joie, c'est de l'humilité, c'est de la reconnaissance, c'est exprimer sa reconnaissance. Donc ça va au-delà de la simple fait de chanter. Le chien, il sait pas chanter, mais il va faire des vocalises. Il va voilà. Et parmi nous, il y en a qui savent pas trop chanter, et c'est pas grave parce que vous tous, vous pouvez faire des bruits de joie. Vous pouvez faire des vocalises. Et en fait, la Bible nous explique que nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés, il n'avait pas besoin de nous, il était autosuffisant. La Bible parle de cette relation divine entre la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu en trois personnes. Au commencement, Dieu était, et c'est déjà le pluriel, les premiers mots de la Bible dans la Genèse. Et tout ce que nous faisons qui ne consiste pas à adorer Dieu ne va pas profondément nous satisfaire. Parce que notre besoin, nous avons été créés avec ce vide dans nos cœurs, nous avons été créés avec ce besoin d'exprimer notre gratitude à quelqu'un qui nous aime, à quelqu'un qui est plus grand que nous, à quelqu'un qui nous veut du bien, comme on dit en expression provençale. Il lui veut du bien, ça veut dire qu'il est amoureux d'une jeune fille. Dieu est amoureux de vous et de moi. Mais il faut que nous en soyons conscients pour pouvoir répondre. L'Apocalypse qui décrit l'éternité que nous aurons avec Dieu nous montre que notre occupation pour l'éternité, ce sera de glorifier Dieu, de l'honorer, de l'adorer, de nous prosterner devant lui, lui dire combien il est digne de nos louanges, par nos paroles, par nos chants, par nos actions. Le verset 13 de l'Apocalypse 5 dit « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Un de mes écrivains favoris, c'est un pasteur américain du milieu du 20e siècle, A.W. Tozer, disait que l'adoration, c'était l'occupation normale d'un être moral. C'est quelque chose qui devrait être naturel. Ce qui est intéressant, c'est que si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer quelque chose d'autre. Nous allons adorer des stars du rock'n'roll, on va adorer de moins en moins, mais il y en a qui le font encore, des hommes politiques, en pensant qu'ils vont amener toutes les solutions dont nous avons besoin. On va adorer une autre personne, si on est amoureux d'elle au point d'en faire une idole. Mais vraiment, cet auteur disait, pourquoi Christ est venu sur terre ? Pourquoi est-ce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit en la Vierge Marie? Pourquoi est-il venu au monde? Pourquoi a-t-il été crucifié? Pourquoi est-il ressuscité? Pourquoi est-il maintenant assis à la droite du Père? Et sa réponse, elle s'applique à nous tous, c'est simplement pour transformer des rebelles en adorateurs. Prochaine fois qu'on vous demande le sens de la vie, vous pouvez dire que, en fait, ma vie, mon but, c'est de me transformer d'un rebelle en un adorateur. Et ça fait toute la différence parce que lorsque vous essayez d'être transformé en adorateur, vous rejoignez le but de votre existence. Vous n'allez plus survivre, vous allez vivre pleinement, malgré les circonstances. Vous pouvez être dans la pauvreté, dans la maladie, dans la persécution, mais si vous avez cette optique que mon rôle, je suis ici pour adorer Dieu, alors vous pouvez vous relaxer et vous pouvez dire à Dieu tout votre amour, toute votre adoration. Venir lui lécher les mains. Pas très beau comme image peut-être, mais cette attitude du chien qui aime tellement son maître qu'il saute partout, qu'il est... Il ne se pose pas des questions existentielles, le chien, quand il voit son maître. Il est heureux et il le montre. Nous avons été créés pour adorer. Dans l'Apocalypse, il est dit, on a cité déjà l'Apocalypse 5, verset 13, dans l'Apocalypse 4, chapitre 4, verset 11, Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Il n'avait pas besoin de nous, il était très bien comme il était, mais il voulait nous faire participer à la joie de l'aimer. Tu es digne, il est dit dans ce passage, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, y compris l'homme. Et c'est par ta volonté que ces choses ont été créées et qu'elles existent. La Bible nous explique dans le Nouveau Testament, dans le livre qu'on appelle la lettre aux Romains, au chapitre 1, verset 25, qu'après avoir désobéi à Dieu, c'est ce que la Bible appelle la chute originelle, le péché originel, Dieu nous avait prévu un monde fantastique, un paradis, un jardin d'Éden, où l'homme et la femme pouvaient vivre sans problème. Mais l'ennemi, sous la forme d'un serpent, le diable, s'est infiltré et il a tenté Ève et Adam en leur disant qu'en fait Dieu était un menteur et qu'il leur avait dit de ne pas toucher à un arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'en fait c'était parce qu'il voulait les empêcher d'être pareils à lui. Et l'homme et la femme se sont dit, oui, peut-être c'est vrai, Dieu nous empêche d'être pleinement heureux, nous empêche d'être ce que nous avons été pour être, ce que nous avons été créés pour être, et ils ont désobéi à Dieu. Ça, il est dit que c'est par cet acte de désobéissance que la mort, la maladie, toutes ces choses-là sont entrées dans la race humaine. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre un petit enfant à mentir, un petit enfant à convoiter ce qu'a l'autre, c'est dans notre cœur. C'est notre vieille nature qui a ça en elle. Heureusement, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour transformer des rebelles en adorateurs. Et lui, il est mort à ma place. Il vient m'apprendre à vivre, comment vivre. Une chose qui est très importante de réaliser, c'est que, encore une fois, nous avons tous ce besoin d'adorer. Et Romains nous dit que, au lieu d'adorer le Créateur, nous nous sommes mis à adorer la créature. Nous sommes mis à adorer l'homme, ça c'est l'humanisme. Nous sommes mis à adorer les choses qui ont été créées par Dieu. Nous sommes mis à adorer la richesse. La richesse est une bonne chose que Dieu veut nous donner, mais nous en faisons une idole. L'amour, la sexualité sont des bonnes choses créées par Dieu, mais nous en faisons des idoles. Nous les sortons et puis nous en faisons des choses que nous adorons parce que ce à quoi nous pensons, ce vers quoi nous mettons toute notre énergie, toutes nos ressources, c'est notre idole. Ça devrait être Dieu, nous devrions adorer Dieu, mais nous adorons d'autres choses. Une chose très importante, c'est de bien réaliser que l'adoration, elle est pour notre bénéfice. Adorer Dieu, c'est pas à Dieu que ça va bénéficier. Encore une fois, il n'a pas besoin de notre adoration. Ça va être pour nous, si nous mettons notre priorité à penser à Dieu, à vouloir l'honorer par nos moyens, par nos vies, par notre existence, Nous n'allons plus survivre, nous allons vraiment vivre. Donc c'est pas pour faire du bien à Dieu. Dieu nous a créés pour l'adorer parce que ça nous fait du bien de l'adorer. Quand on aime bien quelque chose de bien, on se sent bien. Quand on aime bien quelque chose de mal, on se sent mal. Et ça, Dieu nous le dit dans le plus profond de notre cœur, dans l'intimité de notre conscience, de notre cœur. Aujourd'hui, on va regarder comment l'adoration se passait dans l'ancienne alliance. On a parlé de Dieu qu'il avait fait une première alliance avec l'homme, un premier contrat, un premier pacte, un premier testament où si nous faisions certaines choses, alors il pouvait nous aimer et nous bénir. Et si nous ne faisions pas ces choses, alors il nous laissait tomber. Il nous a donné la loi qui était une liste de choses à faire et à ne pas faire. Les 10 commandements et tous les commandements qui venaient avec cette remise de la loi. Je crois que quand on compte tous les détails qui découlent de ces 10 commandements, il y a près de 500 ou 600 règles qu'on peut trouver dans la Bible. Nul n'est censé ignorer la loi, nous disent les policiers lorsqu'on se garde dans un parc sans payer le parcmètre, ils nous mettent une amende, une prune, comme on dit. Mais imaginez-vous, est-ce que vous connaissez les 637 lois qu'il faut respecter ? Rien que les premières 10, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Toutes ces choses-là, Dieu nous les a données, ces règles, ces 10 lois, ces 10 commandements, pour nous montrer qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Parce qu'on peut se dire, mais tu ne tueras point, j'ai jamais dit, j'ai jamais tué personne. Mais Jésus, en expliquant ce que voulaient dire les 10 commandements, nous a dit, en fait, peut-être que vous n'avez pas pris un couteau pour tuer quelqu'un, ou un pistolet, ou une bombe, ou quelque chose, mais peut-être que vous avez dit du mal de cette personne. Et en disant du mal de la personne, c'est comme si vous vouliez la tuer, vous voulez tuer sa réputation, vous voulez tuer les bonnes pensées que les autres peuvent avoir d'elle. Et toutes ces choses montrent en fait qu'on ne peut pas respecter les 10 commandements. Alors à quoi ça sert si on ne peut pas les respecter ? C'est pour nous montrer qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider devant Dieu. Et ce quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et donc cette première alliance, on va lire à partir du verset 1 du chapitre 9 dans Hébreu. Je lis dans la version Second 21. À partir du chapitre 9 de la lettre aux Hébreux. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Le culte, c'est le service d'adoration. Nous sommes une assemblée de loi 1905, c'est une assemblée cultuelle. Et la définition, même aux yeux de la loi, c'est tout ce qui a trait à l'adoration de Dieu, ce qui n'est pas culturel. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qui est en relation spirituelle avec Dieu. Et puis il y avait un sanctuaire, c'est-à-dire un endroit saint que Dieu avait prescrit, où il demeurait avec son peuple, un sanctuaire terrestre. Verset 2, en effet, un tabernacle avait été édifié. Un tabernacle, c'était une tente, une grande tente, avait été édifiée, la première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance, les 10 commandements. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alors, on va parler quand même un petit peu pour nous éclairer. Sans rentrer dans les détails, en fait, c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, des prescriptions avaient été données à Dieu, à Moïse plutôt, par Dieu. Et il avait notamment donné l'instruction de fabriquer un sanctuaire. Dans l'Exode, chapitre 25, verset 8, il était dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Le camp des Israélites, donc, regroupait des tentes de différentes tribus, alignées en forme de losange. On a vu il y a quelques mois qu'en fait, si on survolait en avion, on voyait que ces tentes formaient comme une croix. Et le centre de cela, c'était le sanctuaire. C'était ce tabernacle qu'on va décrire un petit peu. Cette position centrale, encore une fois, Dieu veut l'occuper dans nos vies. Il veut être le centre de nos vies, de nos pensées, de nos activités, de nos préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous être des moines retirés dans un monastère, qu'on doit tous être pasteurs à temps plein, qu'on doit tous missionnaires à temps plein. Mais ça veut dire que ce qui nous préoccupe au fond des choses, c'est Dieu, notre relation avec lui, c'est parler de lui. On peut être médecin et avoir Dieu au centre de notre vie. On peut être infirmier, avoir Dieu au milieu de notre vie, être instituteur, être professeur, être peintre en bâtiment. Tout ce qui compte, c'est à quoi je pense au fond de moi, le plus souvent. Est-ce que je pense à honorer Dieu ou est-ce que je pense à mes loisirs? Est-ce que je pense à devenir riche? Est-ce que je suis obsédé par le sexe? Est-ce que je suis obsédé par le désir de devenir célèbre? On voit, il y a beaucoup de gens, leur seule ambition dans la vie, et c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est d'être célèbre. Donc ils s'inscrivent à tous les concours de télé-réalité dans l'espoir d'un jour d'être célèbre. Non, Dieu va être au centre de ma vie. Il avait aussi dit dans le verset suivant, « Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle, selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. » Ce qui est remarquable, c'est que cette description que l'on trouve dans la Bible du tabernacle terrestre, du sanctuaire terrestre, c'est une image, une ombre des réalités à venir. C'est un modèle réduit de ce qu'on va trouver dans le ciel. C'est comme une maquette du tabernacle céleste. Et si un jour vous vous retrouvez au paradis, ce que je prie que soit la réalité pour chacun de nous et chacune de nous, si vous avez étudié un peu la Bible, vous serez moins perdu. Vous comprendrez un peu mieux quelles sont les pièces, un peu comme quand vous êtes invité chez des amis et au moment de partir, vous ouvrez une porte, mais c'est la porte des toilettes au lieu d'être la porte de sortie. Là, ça va vous donner quelques repères. Il y avait donc cette tente qui était entourée d'une cloison en toile. En toile, ils utilisaient différentes matières pour faire des toiles, des peaux de phoque, des peaux de différents animaux. Et il y avait donc cet enclos, on appelait le parvis, qui faisait à peu près 50 mètres de long sur 25 mètres de large. À l'intérieur, quand on entrait par la porte principale, on trouvait un autel, c'est-à-dire un endroit où on pouvait sacrifier des animaux, les faire, les consumer avec du bois, des flammes. Un peu plus loin, il y avait une cuve où on pouvait se laver les mains. Ça, c'était réservé aux prêtres. Et on pouvait enfin entrer dans le tabernacle à proprement parler. C'était un espèce de rectangle de 5 mètres de large à peu près sur une vingtaine de mètres de longueur et 5 mètres de haut. Il y avait une première pièce, un premier espace qui s'appelait le Saint-Lieu. Et dans ce Saint-Lieu, il y avait du mobilier, donc ça mesurait 15 mètres sur 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Là, ici, ça fait, je crois, 4,25 m. Donc, c'était un peu plus haut, mais c'était guère plus grand que ces locaux. D'ici à là-bas, il y a 13 mètres. Donc, on aurait pu mettre le tabernacle à l'intérieur de cette pièce. Ce qui est curieux, en fait, c'était que c'était un endroit où Dieu voulait rencontrer son peuple. Alors il avait les prêtres qui représentaient le peuple, mais j'ai toujours été surpris que Dieu ait prévu quelque chose de si petit pour rencontrer les hommes. Alors encore une fois, les prêtres représentaient la multitude ou un grand nombre, mais je crois que c'est parce qu'il nous connaît, il sait que beaucoup, peu d'entre nous cherchent vraiment à le rencontrer. C'est un peu comme s'il allait dire, ça suffira malheureusement. Quelque chose de pas très grand. Il y avait dans ce Saint-Lieu, donc, qui était la première partie du local, ainsi délimité par ses tentes, il y avait un chandelier à 7 branches. Ce n'était pas des chandelles qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait en hébreu la menorah. C'était un candélabre ou un porte-lampe. Il y avait des petits calices, des petits brûleurs avec une mèche qui était alimentée par de l'huile d'olive. Ces calices avaient une forme d'amande et l'huile brûlait et donnait de l'éclairage dans cette pièce. Jésus nous a dit qu'il était la lumière du monde. Ça, c'est dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Il est la seule lumière qui nous éclaire vraiment. On peut penser que le soleil nous éclaire, et c'est vrai, mais c'est une réflexion de la lumière, le principe de lumière qui est un principe mystérieux. Les chercheurs les plus avancés cherchent toujours à comprendre davantage ce phénomène de lumière, des photons, des longueurs, des ondes. Nous sommes aussi les églises, nous sommes, dans l'Apocalypse, il est dit que nous sommes des chandeliers. Nous sommes ces candélabres. Nous pouvons apporter la lumière, pour autant que nous soyons une réflexion de la lumière qu'est Jésus. Et les prêtres passaient beaucoup de temps à nettoyer ce candélabre, s'assurer qu'il marchait bien. Aujourd'hui, on a des lampes, des ampoules et on doit s'assurer, ça fait partie des tâches, de vérifier qu'elles marchent toutes, sinon on les change. Là, il s'occupait de nettoyer les mèches, de les couper, de remplir les lampes. La lampe, les mèches pouvaient trouver de l'huile. Il devait trouver de l'huile pour que ça brille. On n'a pas de mal à comprendre que Jésus est la lumière du monde, on peut l'admettre. Ce qui est plus gênant des fois, suivant notre style de vie ou notre foi en ce que Dieu peut faire à travers nous, c'est que Jésus a dit, dans Matthieu 5, 14, c'est le fameux sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde ». Nous avons tous une responsabilité de faire briller la vérité, de faire briller l'amour de Dieu autour de nous. Donc il y avait ce candélabre doré, il y avait aussi une table sur laquelle il y avait des pains qui étaient consacrés, dédiés à Dieu. Il y en avait 12, autant qu'il y avait de tribus en Israël. Et ça, c'était le prêtre qui prenait le pain et qui en mangeait. Et qui, chacun des pains devait aussi être changé journellement pour qu'il y ait du pain frais. Jésus a dit « Je suis le pain de vie » dans Jean 6, 35. La parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Encore une fois, nous sommes des êtres avec un aspect physique, mais un aspect aussi moral et un aspect spirituel. On pense toujours à nourrir le côté physique, parce que c'est celui qui nous fait le plus mal, pensons-nous, mais le côté spirituel, nous devons aussi le nourrir. Et ce n'est pas le moins important, bien au contraire. Quand on ne vit que pour les choses physiques, on survit, en fait. On vivote. Ce n'est que quand on est en connexion avec Dieu par notre esprit que nous pouvons pleinement vivre. Il y avait donc cette table des pains de proposition ou des pains consacrés à Dieu. Et puis il y avait ce qu'on appelait l'autel doré des parfums. Les prêtres pouvaient rentrer dans ce saint lieu. Il y avait beaucoup plus de prêtres que de place dans le tabernacle. Et quand on lit les évangiles, qu'on voit que un dénommé Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il avait été nommé pour... Ils avaient des tirages au sort, ils prenaient des tribus et des familles dans les tribus des Lévites qui s'occupaient à tour de rôle de s'occuper du temple, de couper les mèches, de mettre de l'huile, de remplacer les pains lorsqu'ils étaient plus très frais et aussi d'amener du parfum. Ils faisaient brûler du parfum sur l'autel doré et... Il est dit que la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ces parfums qui étaient brûlés, ce n'était pas pour rendre des compagnies comme Chanel ou je ne sais pas qui riches, c'était pour représenter vos prières, mes prières. Nos prières, même si elles ne sont pas... dites avec un vocabulaire très religieux, même si elles ne sont pas dites en suivant des textes appris par cœur, nos prières, elles sont un parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est comme une odeur de barbecue pour les narines de Dieu, si on peut prendre une analogie un peu triviale. Mais vos prières, le fait... Pourquoi s'appeler tant à Dieu les prières? Parce que ça montre en qui vous mettez votre confiance. Ça montre vers qui vous vous tournez pour vous aider. Et Dieu, ça lui fait plaisir. Ça l'honore. Il vous a créé pour dépendre de lui, pour que vous soyez des êtres heureux qui le connaissiez et qui partageaient dans la joie d'exister de façon splendide. La vie, des fois, que l'on est amené à vivre avec toutes les difficultés, tous les problèmes, ce n'est pas la vie telle que Dieu l'a voulu pour nous. C'est la vie telle que notre désobéissance l'a rendue. Quelqu'un disait qu'au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur. Et souvent on dit, mais oui, mais il y a des accidents, des choses qu'on ne peut pas éviter, il y a des inondations qui ont emporté des maisons. Si on creuse bien à chaque fois, on s'aperçoit qu'en fait, ces maisons, elles ont été construites dans une zone inondable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un péché dans le cœur du promoteur, il voulait s'enrichir aux dépens des autres. Et on pourrait ainsi de suite voir que le problème dans nos vies, il est dans mon cœur, pas dans celui des autres. C'est facile de voir le problème chez l'autre, mais est-ce que moi, mon cœur est en harmonie avec Dieu ? Donc ça, c'était le saint lieu, et puis il y avait le saint des saints. C'était en fait un cube de 5 mètres de hauteur, de largeur, de profondeur. Il n'y avait pas de lumière, si ce n'est la lumière de la présence divine. Ce qu'on appelle en hébreu la Shekhinah, la gloire de Dieu. Et le seul mobilier qu'il y avait, il n'y avait jamais de chaise. On a dit que les prêtres n'avaient jamais fini de travailler. Il n'y avait pas de chaise, il y avait juste l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'était un coffre en bois d'acacia, doré. L'acacia, le bois, ça représente l'humanité de Jésus-Christ. L'or, ça représente sa divinité. C'est inaltérable, c'est éternel. Il y avait ce coffre dans lequel se trouvaient les tablettes de la loi. Il y avait aussi une jarre qui renfermait de la manne. La manne, c'était cette nourriture céleste que Dieu avait pourvue pendant la traversée du désert pour les enfants d'Israël. Et il y avait aussi la bâton en amandier du grand prêtre Aaron. Et ce bâton, qui normalement était un bâton coupé, il avait commencé à refleurir. Aujourd'hui, on peut voir les bourgeons qui arrivent sur les branches des arbres à l'approche du printemps, maintenant que le printemps est là. Là, il y avait cette vie qui renaissait dans l'arche de l'Alliance, dans ce bâton qui représentait l'obéissance à Dieu avec les tables de la loi, la provision de Dieu, la manne qui était renfermée dans ce bol, dans cette jarre. Et dessus, le coffre, il y avait un ouvrage en or, c'était un couvercle qui représentait deux anges des chérubins qui se faisaient face, qui couvraient l'autel de leurs ailes. Et au milieu, ce couvercle s'appelait, on l'a vu, le mot un peu bizarre de propitiatoire. Vous connaissez le mot propice, quelque chose de propice à quelque chose, c'est quelque chose de favorable à ce qu'une autre chose arrive. On dit que le terrain était propice pour que telle chose arrive. Le propitiatoire, c'est quelque chose qui offre un sacrifice qui apaise la colère de Dieu et qui libère la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose de très bien. Dieu a des raisons d'être en colère avec nous, mais ce propitiatoire qui représentait Jésus-Christ, qui était au-dessus du coffre, qui représentait Jésus-Christ dans son divinité, son humanité, c'était là que demeurait la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On fait attention lorsqu'il y a des éclipses de soleil ou de lune, lorsque les enfants ou même les adultes ont tendance à voir observer le phénomène et à prendre le risque de regarder le soleil directement avec vos yeux, puisque nos yeux ont un cristallin qui fait office de loupe. Regarder le soleil pendant trop longtemps peut faire que le fond de notre rétine brûle et détruit. Là, il y avait cette gloire de Dieu qui est immensément plus brillante que celle du soleil. C'est difficile à imaginer que c'était dans cette petite tente et que ça ne brûlait pas tout, mais Dieu veillait à ce que ce soit une représentation terrestre, encore une fois, un modèle de ce qui va se passer dans les cieux. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il y aura plus, on n'aura plus besoin du soleil et de la lune, parce que la gloire de Dieu éclairera tout. Alléluia. Ce Saint des Saints, c'était vraiment une présence de la gloire de Dieu. Cette arche de l'Alliance, c'est celui que recherchait Indiana Jones. La fiction rejoint la réalité biblique. La parole était avec Dieu, nous dit Jean. La parole, ça représentait Jésus. Jésus était avec Dieu. Il est dit qu'il a habité parmi nous. Le mot, c'est il a fait son tabernacle parmi nous. Et ça, c'est en quelques mots la description qui est faite. Il y a une petite anomalie dans les premiers textes qu'on a dans la Bible, dans l'Exode. Il semble que pour ceux qui aiment les détails, il est dit que l'encensoir en or, on pense que c'était l'autel des parfums, là il est déclaré qu'il était dans le Saint des Saints, alors que les descriptions rapportées par Moïse dans l'Exode nous disent que cet autel, il était dans l'autre partie, dans le saint lieu. Alors certains disent, voyez, c'est la preuve que la Bible n'est pas cohérente, on peut facilement penser que l'autel des parfums était très proche de la séparation avec le saint lieu. C'était le dernier objet, dernier meuble qui était au milieu, et que lorsque le grand prêtre entrait, il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait entrer une fois par an, le jour des expiations, dans ce saint des saints. Et là, quand il entrait, le parfum de l'autel des parfums, qui était peut-être dans le saint lieu, influençait, donnait son odeur dans le saint des saints. Donc, pour ceux qui ont recherché ça plus en détail et qui trouvent, sachez qu'il n'y a pas de contradiction. Et encore une fois, les parfums, c'est une représentation, un symbole des prières que nous adressons à Dieu. Il est important, je ne sais pas si vous avez déjà, vous allez faire, pour beaucoup, vous allez monter à Saint-Martin de Vésubie au camp des enfants à la montagne. Si vous faites un soir un beau feu de camp, vous verrez le lendemain que vos pulls et vos vêtements sentiront le feu de camp. Alors on peut les laisser au soleil, les aérer, ça part progressivement. Mais là aussi, les vêtements des prêtres étaient imprégnés par l'odeur des parfums. Et lorsque nous sommes dans cette intimité avec Dieu, son bon parfum va s'accrocher à nous. Il est dit dans le livre des Actes que les Juifs reconnaissaient que Pierre et Jean avaient passé du temps avec Jésus. Leur façon de se comporter, leur façon d'être, leur façon de réagir aux accusations, aux coups, aux violences qui pouvaient leur être faites, cette bonne odeur de Jésus, il l'avait sur eux, et les gens se disaient, Ah, ça sent comme Dieu, ça sent comme Jésus. Et en fait, on a que deux possibilités, soit on sent comme la chair, soit on sent comme Jésus. La chair, ça va quand on vient de prendre un bain, qu'on s'est bien brossé les dents, qu'on a changé les chaussettes, les sous-vêtements. Mais très rapidement, la chair reprend ses droits. Et très rapidement, nous avons besoin d'un autre bain. Si vous êtes imprégné de Jésus, vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. Vous allez toujours avoir cette bonne odeur de la présence de Dieu en vous. On va regarder les versets 6 à 10. On va voir un peu, ça c'était l'état des lieux. Voilà comment ça se présentait dans le tabernacle. Ça fait penser qu'on pourrait mettre une description sur une agence, sur le site d'une agence immobilière et parler du tabernacle et prendre des photos des différentes pièces et de faire un peu de promotion de la foi par cette façon. Alors, l'ensemble. Verset 6, l'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Continuons. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a obtenu ainsi un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. On voit donc il expliquait qu'il y avait les prêtres qui pouvaient entrer dans le saint lieu, dans l'enclos, dans le parvis. Et en fait, cette ancienne alliance, cet ancien testament, c'était pas un modèle d'accès à Dieu, c'était un modèle d'exclusion, en fait. Le juif lambda, le juif moyen, il amenait son sacrifice, il le passait à un prêtre, qui allait le préparer, l'offrir en sacrifice. Et parmi cette exclusion, d'abord ça commençait après lorsqu'ils ont transformé le tabernacle en un temple, ils ont construit un temple et il y avait des barrières. Il y avait d'abord la barrière au-delà de laquelle les femmes ne pouvaient pas aller. Puis il y avait la barrière au-delà de laquelle les païens ne pouvaient pas aller. Puis il y avait le parvis, où seuls les prêtres pouvaient entrer, mais pour être dans le saint lieu, il fallait être de service. Et puis le saint des saints, il y avait où demeurait la gloire de Dieu, c'était super exclusif. Même la carte Visa Premium, vous ne laissez pas entrer. Même si vous connaissiez les videurs, ça ne marchait pas. Une seule fois par an, le grand prêtre pouvait entrer, c'était le jour des expiations, où il offrait un sacrifice pour lui-même, un taureau, et il offrait un bouc pour le peuple, pour que les péchés du peuple soient non pas pardonnés une fois pour toutes, mais qu'ils soient couverts, qu'ils soient expiés pour un temps, jusqu'à l'année prochaine. Et ça, c'est le grand contraste qui est dressé entre Jésus et le grand prêtre terrestre. Le grand prêtre terrestre, il y a d'autres différences, mais les prêtres devaient continuellement offrir des sacrifices. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Les sacrifices n'étaient pas assez puissants pour enlever la culpabilité de mon être intérieur. Et en fait, ces sacrifices qu'on offrait sans cesse, ils avaient plutôt tendance à rappeler que nous étions des pécheurs qu'à nous effacer nos péchés et nous dire que nous étions des enfants de Dieu. Donc 364 jours par an, l'entrée était impossible. Il n'y avait qu'une fois par an, un jour par an, où l'entrée était réservée au grand prêtre. Le grand prêtre, c'était quelqu'un qui avait été choisi dans la famille d'Aaron, qui était au-dessus des sélectionnés parmi les prêtres, qui était donc juif, qui n'était pas païen et qui n'était pas une femme. Aujourd'hui, il est dit qu'il n'y a plus d'homme ni de femme pour s'approcher de Jésus. Il n'y a plus de païen ni de grec. Il n'y a plus de juif ni de grec, pas de païen ou de croyant. Tout le monde peut s'approcher de Jésus, de Dieu par Jésus-Christ. Jésus a eu ces paroles dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et certains commentateurs pensent qu'en fait le nom des voiles, des portes, du voile des portes qui fermaient d'abord le parvis, puis le saint lieu, puis le saint des saints, avait pour nom le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous dit, il est celui qui pénètre jusqu'à la présence glorieuse de Jésus. Et il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas d'autre personne dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des galaxies, par lesquelles nous puissions être en communion avec Dieu le Père. L'accès à Dieu est ouvert à tout moment. Le sang de Christ est si puissant qu'il enlève la culpabilité qui nous accable. Souvent, le diable vient vous dire « Mais tu crois que Dieu peut te pardonner? Rappelle-toi tout ce que tu as fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. » Et vous dites « Ah oui, c'est vrai, bon. » Non. C'est la différence entre le rituel religieux et la réalité de Christ. Nous, on a tendance à nous attacher aux choses externes, parce qu'on peut voir si c'est fait ou si c'est pas fait. Dieu, lui, il est dit qu'il regarde à notre cœur. Il veut avoir cette relation avec nous. C'est la relation de l'adoration. Quelqu'un a dit, c'est très beau, adorer, c'est réveiller sa conscience en regardant à la sainteté de Dieu. C'est nourrir son intelligence avec la vérité de Dieu. C'est purger son imagination avec la beauté de Dieu. C'est ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. C'est consacrer sa volonté au dessein de Dieu. Autrement dit, adorer, ça veut dire réaliser que Dieu est complètement saint, que sa parole est la vérité, qu'il est beau comme nulle autre chose sur la terre et dans les galaxies, qu'il nous aime jusqu'à en mourir, et que sa volonté est ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Et l'adoration, elle va conduire au service. Là, les prêtres servaient en pensant faire l'adoration. Marc nous disait, tu aimeras plutôt Jésus dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça part du cœur et ça va jusqu'à la force. Ça va jusqu'au service. On utilise sa force pour servir Dieu. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être dans un endroit spécial. Ce tabernacle terrestre, c'était un modèle réduit d'une vérité que nous découvrirons. Et nous serons un peu moins surpris si nous avons étudié ça et que nous en souvenons. Mais à tout instant, dans n'importe quelle condition, on peut être dans une relation d'adoration de Dieu. Il y avait un moine français au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, qui avait écrit « La pratique de la présence de Dieu ». Donc c'était un cuisinier, il travaillait dans les cuisines, c'était un moine. Et voilà ce qu'il disait. « Si je fais la vaisselle, il y en a qui aiment faire la vaisselle ? Moi j'aime bien, j'ai l'impression de faire quelque chose qui est utile, on n'a pas de lave-vaisselle, j'aime bien faire la vaisselle. Si je fais la vaisselle, je le fais à la gloire de Dieu. » Autrement dit, je vais bien regarder, je ne vais pas laisser un bout de barbac collé à l'assiette. « Si je ramasse une paille sur le sol, je le fais à la gloire de Dieu. Je suis en communion avec Dieu tout le temps. » Et il disait, « Les règles du monastère m'imposent que je dois prendre le temps d'aller tout seul prier, et je le fais volontiers, mais ces moments ne diffèrent en rien de mon habituelle communion avec Dieu. » Vous êtes ici aujourd'hui, vous avez le désir d'honorer Dieu par votre foi, par votre présence, vous voulez être au bénéfice de son amour. Et c'est une bonne chose, on est heureux de se retrouver ensemble, de parler de ces choses, de célébrer Dieu, de prier ensemble. Mais si vous avez une relation basée sur la vérité de Jésus-Christ, ça ne devrait rien changer à vos habitudes. Vous n'êtes pas plus saint, vous n'êtes pas plus spirituel quand vous êtes ici que quand vous êtes chez vous en train de faire la vaisselle, que quand vous vous réveillez le matin, que quand vous allez passer un coup de balai pour rendre la pièce propre. Quelqu'un d'autre a dit « L'adoration, c'est l'intimité avec le Tout-Puissant. » Amen.